Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Presse Occulte, le podcast bimestriel qui s'intéresse au rapport entre le jeu vidéo et les médias, qu'ils soient spécialisés ou généralistes. Et avec moi, comme à chaque épisode, évidemment, Yukishiro, le rédacteur en chef de Gamekult. Salut Yukish.
Salut Yann, salut à tous, je suis extrêmement content et crevé aussi. Oui. Et c'est dans ces moments-là que je me rappelle qu'on a bien fait de faire une émission audio et pas vidéo, comme ça on voit pas ma tête.
Exact.
Donc j'espère que j'aurai l'air moins fatigué avec la voix, parce que le visage, c'est pas gagné.
On ne voit pas nos cernes et c'est un grand grand avantage. Je précise également, tu me l'as dit hors antenne, que tu aurais potentiellement du lag, non pas du lag lié à ta connexion, mais du lag lié à ta fatigue aujourd'hui.
Ah oui, lié à mon cerveau, voilà. C'est-à-dire que, et ça se change moins facilement qu'une connexion, donc voilà, si je mets du temps à répondre, c'est pas... Si j'ai l'air moins intelligent et moins brillant que d'habitude, faut pas s'inquiéter, quoi.
Aujourd'hui, pour parler de YouTube, et pour parler de YouTube quand on n'est pas un énorme YouTuber comme le joueur du grenier, comme Squeezie, comme Cyprien ou comme d'autres, et également pour réagir un petit peu à l'actualité jeux vidéo et médias, nous recevons deux invités. Tout d'abord, elle est vidéaste, vous la connaissez peut-être pour son journal de bord de développement de jeux. Elle, c'est la développeuse du dimanche. Salut Lola.
Salut.
Est-ce que tu vas bien?
Oh bah oui, oui, nickel, ça va.
C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. D'un autre vidéaste, mais en plus de sa chaîne YouTube, il s'est rendu coupable des nouveaux épisodes de 24 FPS ici même sur Gamekult Premium. Lui, c'est Mea. Salut Damien.
Salut, salut.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Et tu es justement en plein montage de 24 FPS, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, sur le prochain épisode là, qui sort je sais pas quand, mais en tout cas, voilà, je le termine.
Nickel. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu de teasing peut-être?
Je sais pas si j'ai le droit pour... Yuki, je dois me dire si je peux.
Ah, moi, non, y a pas de souci. Hein. De toute façon, je suis pas en état de réfléchir, donc vas-y, tease.
Ça sera sur Tomb Raider, en fait, les rapports entre le jeu et le cinéma.
Et honnêtement, si tu veux lui faire signer une augmentation, c'est maintenant. Hein. Là, j'ai déjà fait tout à l'heure, j'ai deux fois la paye de la pige, donc faut vraiment y aller maintenant.
Je sais plus signer, donc c'est foutu, je pourrais rien signer du tout.
Zut. Non mais je prends ta main, t'inquiète pas Yuki, je prends ta main, je la passe sur le papier, je signe avec ton sang, il n'y a pas de problème.
Non, laisse mon sang, j'en ai déjà plus beaucoup.
Bien, les présentations sont faites, le programme est annoncé, et du coup, c'est l'heure de passer à l'actualité. Dans l'actualité, dans cette rubrique, eh bien c'est très simple, on revient tous les deux mois sur des éléments d'actualité qui nous intéressent, à cheval entre les médias, la communication, le jeu vidéo. Et Yukish, on commence par les brèves.
Oui, et une brève pas rigolote du tout, puisqu'un grand monsieur de la presse jeux vidéo nous a quittés depuis le dernier épisode qu'on a enregistré, c'est Lord Casque Noir, une plume reconnue dans le jeu vidéo, notamment chez Feu, Micronews et Joystick. Il s'appelait Jérôme Darnaudet, c'était l'un des cofondateurs de Presse Non-Stop, qu'on connaît bien, puisque c'est l'éditeur du magazine Canard PC. Il nous a quittés le 7 mai 2018. Des suites d'une longue maladie. Et évidemment, Presse Occulte, son équipe, fait part de sa tristesse et adresse ses condoléances à sa famille, ses proches et ses amis.
Joystick est presque de retour sous format podcast. Corentin Lamy, qui notamment exerce chez Pixel, chez Le Monde, lemonde.fr, est à la présentation et ZQSD est à la production d'un podcast tout particulier, puisqu'il n'est pas publié sur le site de ZQSD, mais uniquement disponible voilà, sur iTunes. Chaque épisode revient sur une période de la vie du magazine et en compagnie d'un rédacteur de l'époque. La publication, elle est mensuelle et vous pouvez retrouver l'émission donc, sur iTunes et également sur Twitter, @joystick_lemag. Donc le podcast s'appelle Joystick le Mag, tout simplement, hein. Il suffit de chercher ça et vous avez voilà un petit épisode de temps en temps dédié à la vie de ce magazine adoré par beaucoup.
Et Canard PC toujours pour terminer, je voulais signaler que la formule bimensuelle, c'est-à-dire deux fois par mois, c'est terminé pour Canard PC qui passe, ou plutôt qui est passé, puisqu'au moment où l'émission sera diffusée, ce sera déjà le cas, depuis le 1er juillet en formule mensuelle, donc avec une nouvelle formule, plus de pages, un meilleur papier, un dos carré, etc. Donc voilà, le Canard PC a un peu évolué, puisque maintenant c'est il n'y a plus qu'un seul numéro par mois.
Et maintenant, on fait un petit focus sur le financement participatif dans la production de contenu médiatique autour du jeu vidéo.
Et oui, puisque collusion et entre-soi toujours, on va parler d'Oscar Le Maire, que les abonnés premium connaissent bien, puisqu'il a signé quelques très gros papiers chez nous. Oscar Le Maire, en fait, qui est un journaliste indépendant, qui a signé quelques bouquins récemment, qui là vient de signer, ou plutôt de lancer, un site internet qui s'appelle ludostrie.com, L-U-D-O-S-T-R-I-E, qui est un site en fait internet qui recense et publie des papiers, ce qu'on appelle des longues formes, c'est-à-dire des papiers très très longs, des dossiers de fond, hein, comme on va dire, sur l'histoire et les coulisses du jeu vidéo. Et l'originalité de ce site, c'est que son financement est participatif, donc il n'y a pas de publicité, ça passe par un Patreon, donc il faut simplement donner de l'argent pour financer les futurs articles d'Oscar Le Maire.
Or, Ludostri reprend exactement le même modèle d'affaires que Bagro.fr quand il s'est relancé en janvier de cette année. Donc du coup, ma question que je vais adresser ici prioritairement à nos deux invités, Lola et Mea, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle de production après financement et qui se différencie clairement du modèle de paywall traditionnel où vous savez pourquoi vous payez, au moins en partie on vous dit regardez, vous allez payer pour ça et vous allez avoir accès à tel et tel contenu. Est-ce que vous adopteriez un tel modèle? On va commencer par Lola.
Alors, je ne sais pas si je l'adopterais moi-même, mais je trouve que c'est intéressant puisque finalement, c'est presque du Kickstarter d'articles et de contenu. Puisque là, c'est vraiment, comme tu disais, on paye et ensuite, s'il y a assez, on va avoir le contenu. Mmh. Donc, je trouve ça cool. Après, moi, j'ai un petit peu le syndrome de j'aime pas avoir la pression. J'aime bien me dire, en fait, j'ai mon rythme, je fais ce que je veux. Si vous voulez me donner des sous, c'est génial. Mais n'attendez pas de moi une certaine régularité. Donc, c'est peut-être pas fait pour les profils comme moi, mais si jamais on est super carré, qu'on a le planning et tout, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ouais.
Chez toi, ça créerait un petit peu cette pression de le public est là. En fait, si ça a du succès, que c'est un problème pour toi, en fait, entre guillemets.
Ah mais oui, moi ça serait l'angoisse, enfin, la nuit je dormirais plus, je dirais ah vite ça y est, il faut que je sorte ma prochaine vidéo ou je ne sais quoi, donc non c'est très bien mais il faut être très structuré à mon avis pour pouvoir faire ça en fait.
Et je tiens à souligner la différence parce que certains de nos auditeurs, certaines de nos auditrices pourraient souligner la chose en disant mais attendez c'est pas très différent d'un système Patreon où vous soutenez quelqu'un et simplement le contenu il est pas derrière un mur d'une manière ou d'une autre, il est pas limité. La différence c'est que là il est vraiment produit par étapes en disant si je ne reçois pas telle somme je ne vais pas faire ça et si je le reçois je vais me mettre à le faire et le publier de manière publique, sans publicité, etc. Donc c'est un cas de figure assez particulier qui se différencie de ce qu'on peut voir assez régulièrement sur des plateformes comme Tipeee, Patreon, etc. Dont d'ailleurs le Tipeee que tu as toi, Lola, avec la développeuse du dimanche.
Yep.
Mea, quant à toi, ce modèle-là, est-ce qu'il t'intéresse ?
Pareil, moi, je suis comme la développeuse du dimanche, enfin comme Lola, je suis sur Tipeee, donc je connais déjà, j'ai mis longtemps pour m'y mettre. Mmh. Mais après l'autre modèle, je sais pas trop. J'ai à peu près le même souci, ouais. C'est que effectivement, là, il y aura une attente plus importante. Derrière et ouais et du coup ça met une pression un peu plus grande et puis je pense que ça je sais pas après tout dépend des gens qui donnent mais ça peut donner un côté producteur aussi en disant non mais ça j'aime pas du coup enfin je sais pas il y a un côté effectivement production qui est un peu particulier mais bon moi c'est pas ma manière de travailler mais après si je sais que pour Oscar c'est exactement ce qu'il fait donc c'est le même principe qu'une pige en fait tout simplement oui. Sauf que c'est les internautes qui décident, quoi.
Ce sont eux les patrons. Yukish, de ton côté, est-ce qu'un modèle pareil, est-ce que tu le verrais adapté à un site de la taille de Gamekult ou est-ce que tu penses que c'est extrêmement peu réaliste puisqu'on se retrouverait dans une situation que les économistes traduisent comme la tragédie des communs, c'est-à-dire tout le monde profite et va sur le site internet de manière gratuite, mais personne, ou très très peu, ou trop peu, vont mettre la mise nécessaire pour faire vivre le truc à long terme?
Alors c'est une question qui est assez intéressante et je vais essayer quand même de pas trop détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet que je connais assez bien malgré tout puisque nous on a eu deux formes de premium. On a eu d'abord le premium un peu comme tu le décris, c'est-à-dire tu donnes de l'argent si tu veux mais on ne mettra pas de limitation d'accès et puis on a eu un premium beaucoup plus agressif si je puis dire et l'actuel puisqu'on demande maintenant aux gens de payer en tout cas pour accéder au contenu qu'on produit avec leur argent.
Donc en fait le premium du passé, on le rappelle, qui permettait à certains articles d'être faits, il y avait une mention, cet article a été payé grâce à nos abonnés premium, mais il était visible par tout le monde.
Ouais, c'était en fait le début, on préparait déjà, je pense un peu psychologiquement les internautes à l'idée qu'en fait la publicité c'était pas un miracle et que elle pouvait pas régaler tout le monde et sur n'importe quoi. Et en fait on a dû assumer qu'en fait non seulement c'était le cas, mais en plus c'était même plus grave qu'on pensait, donc on a dû mettre un paywall. Moi je constate simplement je crois pas dans ce modèle hein, pour être tout à fait franc, en tout cas pas pour des structures comme les nôtres pour plusieurs raisons. Il y a une raison un peu marketing, c'est que sur internet il faut savoir que les gens ils veulent voir pour payer et pas payer pour voir, c'est-à-dire que globalement il faut quand même leur donner un minimum de contenu avant leur demander de leur argent, parce que si tu leur demandes de l'argent contre la promesse que tu feras du travail, ça peut marcher pour un Kickstarter, ça peut marcher pour des articles de temps en temps ou des livres, mais sur du long terme je crois sympa que ça incitera les gens à toutes les semaines ou tous les mois ou tous les deux mois remettre de l'argent pour le prochain article. Donc ça, c'est vraiment plus mon point de vue. Je suis assez réservé sur ce modèle-là. Après, il y a aussi des logiques de production qui font que bah, quand t'es salarié, c'est pas possible de t'en remettre de manière régulière à des internautes. Si t'as pas une formule d'abonnement, par exemple. Donc le Patreon, là-dessus, est intéressant. Mais sinon non, globalement voilà, c'est un modèle intéressant. Je pense qu'il va convenir à un certain usage, notamment celui d'Oscar, parce que Oscar c'est quelqu'un qui travaille énormément ses articles en amont. Ça lui prend un temps fou et c'est vrai que les tarifs de pige de la presse professionnelle, même si ils ont tendance parfois à remonter un petit peu en presse payante, c'est pas miraculeux et malheureusement on peut pas faire non plus de trop d'efforts là-dessus. C'est qu'à un moment bah il y a une incompatibilité entre l'effort consenti par le journaliste et la pige et le montant de la pige, parce que malheureusement on peut pas mettre des milliers d'euros sur un seul article, ça marche pas comme ça. Donc c'est un système qui a ses limites, je pense, mais qui est intéressant pour certains cas de figure. Je vais quand même préciser que nous, on a changé de premium, donc on a lancé un premium en 2011 qui demandait simplement aux gens de donner de l'argent, et en 2015, on a lancé un second premium, donc l'actuel, qui permettait maintenant aux gens de payer pour lever un paywall. Ben, en gros, entre ces deux démarches, on n'a pas changé nos lecteurs, et on a eu peut-être x8 ou x9 en termes d'abonnés entre la première où on demandait de l'argent et la seconde où on demandait de payer. C'est-à-dire que c'était un peu différent. C'est-à-dire que demander de l'argent, c'était du soutien. Demander de payer, c'est-à-dire qu'on était quand même plus dans une forme un petit peu d'obligation. Et on s'est rendu compte que bah, si on demande simplement aux gens d'être généreux et d'être altruiste, ils vont l'être. Mais malheureusement, pour quelqu'un qui va avoir la lucidité de se dire bah, « Sans moi, ce mec-là pourra pas faire son travail », il y a plein de gens qui vont mater gratuitement, alors que si tu leur avais demandé de l'argent, si tu les avais contraints à payer, peut-être qu'ils auraient payé. Donc c'est un peu cynique ce que je dis, mais globalement, nous, on a eu des résultats dans ce sens-là, c'est-à-dire que on s'est bien aperçu qu'entre demander aux gens de payer s'ils veulent et demander aux gens simplement de payer pour le contenu qui nous semble payant, il n'y a pas eu photo. Hein. On parle vraiment de quasiment x10 en termes de stats et en termes d'abonnement. Enfin, pour nous, c'est implacable. Quand on met un article premium sur Gamekult, quand on met une émission comme Presse Occulte, mécaniquement, on gagne des abonnés. C'est-à-dire qu'on peut le voir en temps réel. Des gens qui veulent regarder l'émission, ils sont prêts à mettre quelques euros, ils regardent, après ils peuvent se désabonner, mais globalement, c'est autre chose que simplement, et si ça vous plaît, donner de l'argent. Parce qu'on voit très bien notamment, et sur les Patreons ou les Tipeee de certains copains qui sont lancés dans cette aventure, on voit très bien qu'ils font un peu sale comble sur les premières semaines où il y a un peu un effet d'euphorie, et puis globalement après progressivement ils sont un peu sur une phase de plateau, ils ont du mal à regagner des gens, parce qu'une fois qu'ils ont fait, on va dire, la fanbase, les fans ils donnent un temps, mais après ils vont arrêter quoi.
Voilà, on a vu ce phénomène-là. Je suis encore pour quelques jours directeur général de Radio Kawa et on a lancé un Patreon en 2015. On a tout à fait vu ce phénomène-là de lancement, de financement participatif qui fait crever les plafonds et ensuite ça se tasse. Et je pense que tu as dû voir la même chose à peu près, toi, Lola, avec le Tipeee également. Vraiment d'un départ canon au moment où on le lance, puis ensuite...
En fait, bizarrement, moi, j'ai de la chance avec mon Tipeee. Je sais pas quelles étoiles se sont alignées, j'en sais rien, mais au début, j'ai eu un petit succès. Effectivement, ça a grimpé très vite. Mm-hmm. Mais en fait, ça a continué de grimper. Et là, je suis à un truc satisfaisant, stable, qui est le plus haut que j'ai jamais eu pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça continue à augmenter sur du long terme. Donc après peut-être que ça va pas durer, hein, mais pour l'instant voilà, ça marche pas mal pour moi.
Pour l'instant c'est de la bonne tendance. Et bien écoute, c'est bien, ouais. C'est bien noté. De ton côté aussi, Mea, tu as un Tipeee, est-ce que tu as vu le même phénomène?
J'ai exactement pareil que Lola, c'est-à-dire qu'au début il y a eu une légère montée, c'est-à-dire vraiment pas grand chose par rapport à après. Ça monte à chaque vidéo en fait, ou ça redescend de temps en temps, parce que c'est il y a les dons de par mois et les dons constants et les dons juste une fois. Donc du coup à chaque vidéo j'ai souvent des dons une fois après, mais les dons constants, ouais, ça continue à monter tranquillement. Donc je sais pas du tout si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça, ça monte gentiment quoi.
Très bien. Eh bien, merci à tous les deux, merci Yukish également pour cette réponse pleine de chiffres et pleine de perspectives. On revient dans un instant. Chronique, c'est l'heure de l'édito d'Un Drop dans la mare. Ils ont carte blanche à chaque épisode. Les voici.
Ce n'est pas YouTube qui fait le public, mais le public qui fait YouTube. Cette phrase est extraite d'une vidéo de Google France lui-même. Comprenez par là que YouTube n'a effectivement pas de ligne éditoriale. Fort de ses méthodes de calcul robotisées, la plateforme met automatiquement en avant les vidéos qui ont le plus attiré l'attention du public, offrant ainsi le plus gros de sa visibilité au contenu qui interpelle déjà massivement. Les partisans de cette méthode y verront une visibilité démocratiquement offerte. L'absence de ligne éditoriale arbitraire permettant potentiellement à n'importe quelle thématique d'émerger en vidéo. Mais ceux qui regrettent cette méthode y verront en revanche un refus de miser sur le fond. Parce que utiliser l'attention captée du plus grand nombre comme recette pour offrir de la visibilité à une vidéo revient statistiquement à surtout faire grandir les chaînes qui apostrophent l'auditeur. Les chaînes qui veulent grossir sur YouTube sont ainsi sommées d'être spectaculaires. YouTube est donc un lieu de spectacle, les titres sont excessifs, les miniatures composées d'expressions faciales théâtrales, l'humour ou l'amusement injecté tout le temps. Dans les faits, YouTube montre que substituer une ligne éditoriale humaine à un algorithme revient finalement à avoir une ligne éditoriale quand même, toute robotisée soit-elle. Dans son slogan, YouTube dit ne pas influencer le public, mais que c'est le public qui influence YouTube. C'est faux pour deux raisons. Premièrement, les critères de référencement et de monétisation font que YouTube influence la façon dont les vidéos sont créées pour la plateforme. Durée, fréquence, sensationnalisme, jusqu'à la thématique elle-même, puisque les vidéos postées ont désormais besoin d'avoir un sujet jugé advertiser-friendly par YouTube pour pouvoir être monétisé. Deuxièmement, les suggestions du robot enferment rapidement l'auditeur dans les mêmes thématiques, avec une monomanie radicale. Écoutez des chansons de Michael Jackson et vous voici bientôt abreuvé de suggestions de vidéos cherchant à vous prouver qu'il n'est pas mort. Intéressez-vous aux prochaines missions spatiales vers la Lune et vous voici abreuvé de suggestions de vidéos idiotes cherchant à vous prouver que personne n'y a encore mis les pieds. On a beau retourner le problème dans tous les sens, avec ses 1,8 milliard d'utilisateurs connectés par mois, un quart de l'humanité, YouTube a une influence sur le public. Il ne lui reste plus qu'à l'assumer.
Nous sommes de retour dans Presse Occulte, c'est l'heure du rebond, toujours avec nos deux invités, Lola, développeuse de Dimanche, et Mea, de l'antre du Mea, mais aussi de 24 FPS sur Gamekult Premium. Il est temps de s'attaquer donc au rebond consacré cette fois-ci à l'E3 2018. Lola, Mea, question de curiosité, pourquoi est-ce que vous ne traitez pas de l'E3 sur vos chaînes respectives ou en stream Twitch, sachant qu'une bonne partie de ce que vous faites, voire même la totalité de ce que vous faites, tourne autour du jeu vidéo? Je vais poser la question à Mea pour commencer.
Je l'avais fait les années précédentes et puis en fait c'est du boulot en plus qui n'est pas forcément intéressant par rapport à... Enfin, en tout cas pour les internautes, j'ai pas remarqué que les vidéos que je faisais post-E3, elles n'étaient pas plus regardées que ça. Du coup je me suis dit bon, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Donc voilà, donc c'est, non, je suis sur Twitter très actif, mais à part ça... C'est pas quelque chose qui me tentait parce que ouais c'est du à chaud, puis plein de gens le font déjà.
C'était du court terme également, la vidéo dans un mois, un an, oui, elle voilà. Va plus être aussi intéressante.
Oui voilà, puis je sais pas, je suis moins enthousiasmé par les derniers E3 depuis quelques années, du coup chaque fois si c'est juste pour dire alors moi j'ai bien aimé ce jeu et puis voilà, je sais pas. ça me tente pas plus que ça.
Alors, je sais que toi, Lola, tu as une réponse un peu plus tranchée sur la question.
Oui, totalement. Moi, c'est team blasitude. Je suis juste vraiment blasée par l'E3. Je sais très bien que si jamais je faisais un stream, je passerais mon temps, en fait, à ne rien donner de positif, quasiment. Je serais toujours là. Ok, donc rappelez-vous, là, on le voit de plus en plus. L'E3, c'est pas directement pour les joueurs, c'est plutôt un truc business. En fait, c'est pas vraiment le jeu vidéo que j'aime bien. Et en plus de ça... Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos de Game Spectrum qui parle d'écologie et de jeux vidéo et qui critiquait le fait qu'il y avait beaucoup de nouvelles consoles qui se remplaçaient très 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 vite alors que c'est des matériaux quand même rares, fabriqués dans des conditions pas terribles, qui font vraiment mourir des populations. Et là, je me disais, ah, il y a des rumeurs comme quoi PS5, nanana, j'ai l'impression que la PS4 est sortie hier. Donc moi, en fait, ça me hype pas, limite ça me déprime, je sais pas. Donc comme j'ai pas grand-chose de positif à apporter sur l'E3 et que mon but premier avec ma chaîne, c'est de partager ce que j'aime plutôt que ce que j'aime pas, je me dis... Il n'y aurait pas de grand intérêt. Et puis, en plus, comme disait Mea, il y a déjà plein de gens qui le font. Plein de gens qui le font très, très bien et qui ont déjà toute la communauté derrière pour suivre les confs. Donc, je ne vais pas forcément me rajouter dessus. Et dernier point, des fois, c'est tard la nuit et moi, j'aime dormir. Donc,
Oui.
Voilà.
Sonny à 3h du matin.
Ça, c'est le meilleur argument qui arrive à la fin, mais c'est vraiment l'argument massue, je suis d'accord.
Ah ouais, non. Ouais. Je peux pas. C'est plus de mon âge.
Première fois, depuis 4 ou 5 ans, je ne les ai pas commentés en direct et je vous avertis, ne pas faire Sonny, c'est génial. ne pas avoir à rester debout jusqu'à 3h du mat, faire ça et ensuite à 5h du mat, tu fais t'es un cadavre sur pattes, tu fais faut ranger le matériel et c'est n'importe quoi. Donc je suis comme vous assez ravi par le fait de ne pas avoir à subir cet horaire assez impensable. Sur cette question-là, de manière un peu plus large, j'aimerais juste revenir dessus et vraiment prendre le truc plus en gros. C'est une caractéristique d'être sur YouTube. C'est aussi un peu lié à être son propre média sur Internet, hein, que ce soit via Twitter, via un blog ou autre, mais tout de même, il y a cette idée d'être son propre rédacteur en chef, ce qui est très souvent le cas, et ce qui est le cas pour vous. Est-ce que, comme l'adage le dit, vous sentez quand même un peu le souffle, soit de Google, soit de l'algorithme YouTube, en ces termes-là, ou pas, sachant que je crois que vous deux, vous avez désactivé la monétisation par publicité sur vos vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce que ça joue quand même un certain rôle ou pas du tout? Pour vous.
Alors moi, j'ai pas désactivé la monétisation par
YouTube. Tu n'as pas désactivé, pardon.
Non, parce que de toute façon.
Il faut bien manger.
Bah en fait, il y en a plusieurs personnes qui disent désactiver AdBlock pour regarder mes vidéos et du coup, je me dis que ceux qui veulent pas les pubs, bah ils ont AdBlock, donc ça change rien. donc voilà. Par contre, pour la question, moi je fais exactement tout ce que je veux. J'essaye quand même des fois de coller à l'actualité. Là, par exemple, j'ai fait Jurassic Park parce que c'était les 25 ans, mais c'est parce que je me suis dit, faudrait marquer le coup, quoi. Plus qu'une question de, si je fais pas une vidéo maintenant, ça va pas, il faut que ça buzz, machin. Donc, non, j'ai quitté un peu ça parce que justement, je me suis rendu compte que, quand j'avais fait mon truc sur Sliders, qu'il y avait aucune actu, que c'était quelque chose que j'avais fait juste pour le plaisir ou quoi que ce soit, et j'ai eu un pic au niveau des vues ou quoi que ce soit, et en fait, je me dis, si je fais les trucs juste que j'aime et que j'ai envie de faire à ce moment-là, en étant motivé, c'est bon. Donc référencement Google, voilà, je fais pas. Je faisais à une époque, je tentais, je faisais l'E3, après l'E3, machin, mais en fait, j'étais pas très motivé et je pense que les gens le voyaient. Du coup, je me dis que voilà, je préfère suivre, être mon propre rédac chef, mais suivre aussi mes envies vraiment en fonction de mes.
Suivre tes envies puis voir également la réponse du public sur le cas de Sliders que t'as donné.
Oui, voilà, mais Sliders c'est la grosse surprise. Hein, mais c'est souvent ce genre de cas. Il y a certaines vidéos où je me dis je le sors au bon moment. Par exemple sur Astar Rocket, je me suis dit c'est la fin des JO, ce genre de choses et du coup il y allait avoir peut-être. Un petit plus au niveau des vues. En fait, non, c'était pareil que d'habitude, et juste que c'est vraiment en fonction de, je sais pas, de l'humeur des viewers du moment. Je ne comprends toujours pas YouTube. Hein. Moi, ça fait depuis 2010 que j'y suis, et je pige toujours pas qu'est-ce qui fait que des personnes regardent ou pas. Hein. Ça, c'est...
Ah mais l'algorithme continue de changer en même temps, donc je pense que tu peux continuer de te poser la question.
C'est ça, mais en fait, je m'étais rendu compte que la plupart des gens qui râlaient sur le changement de l'algorithme, c'était tous ceux en fait qui avaient compris l'algorithme et qui en jouaient. Du coup, qui avaient compris que en faisant telle vidéo, ça cartonnait, en faisant ce genre de choses. Et c'est
la barre des 10 minutes notamment était.
C'est plutôt ce genre de personnes qu'on râlait quoi. Et donc moi, j'ai vu aucun changement en fait. Et au contraire, je trouve que le nouvel algorithme permet de partager plus facilement d'autres vidéos sur le côté. Avant, on restait un peu en circuit fermé, c'est-à-dire que le YouTube allait promouvoir tes propres vidéos. Donc, on allait rester sur la même chaîne. Et là, ça promeut d'autres chaînes différentes de la nôtre. Donc, je trouve qu'il y a une plus grande variété. Et moi, ça me permet de me faire découvrir par d'autres personnes. Alors que je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont râlé, parce qu'ils se sont dit, maintenant, ils vont aller voir d'autres gens, et ils vont peut-être se rendre compte que je fais de la merde. Et du coup, voilà, je pense que c'est. Donc l'algorithme, il change, mais il change. Je pense qu'il change pour le bien. Je vois pas.
Lola, de ton côté, comment est-ce que tu vois cet aspect un peu rédactrice en chef de ta propre chaîne? Est-ce que tu es influencé par l'algorithme potentiellement, par ce qui est proposé à tes spectateurs? Est-ce que tu regardes comme ça? Est-ce que tu passes du temps dans l'onglet Analytics sur YouTube ou pas du tout?
Alors, il faut savoir que je me suis lancée sur YouTube parce que j'en avais marre que mon patron me dise quoi faire dans mon studio de jeu. Donc, j'allais vraiment faire ma tête de mule et faire vraiment ce que j'avais envie de faire.
Nickel.
Oui, vraiment, quand je sors une vidéo, c'est que j'ai une idée, j'ai envie de le faire. Après, si des fois, je me dis, allez, je vais quand même continuer quelques formats un peu plus parce que je vois que ça plaît et puis bah, moi ça m'amuse aussi. Mm-hmm. Mais je suis pas très analytics. Bon, moi, j'ai pas monétisé mes vidéos, par exemple, ce qui fait que je sais très bien que l'algo va pas me mettre en avant ou je sais pas quoi. Mais en fait, moi, YouTube, je compte pas en vivre. Enfin, c'est pas mon objectif, clairement. C'est un super support. Ça me permet d'offrir une vitrine de ce que je fais, de faire parler de mon jeu et tout. Mais je sais très bien que si on veut être totalement viable sur YouTube, faut les partenariats, faut être dans les bons groupes publicitaires. Donc, comme moi, je sais que c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire, je m'inquiète pas pour ça. Les seules analytics que je regarde finalement, c'est un peu la démographie. Je trouve ça intéressant de voir ce que je suis plus regardée par des hommes ou des femmes, l'âge à peu près des gens. Mais c'est plus de la curiosité que vraiment un côté marketing. Donc, après, je vois bien que malgré tout, malgré le fait que je respecte pas spécialement certaines règles et que je sois pas monétisée, il y a quand même quelques personnes qui ont vu mes vidéos au pif, enfin, qui sont tombées dessus parce que YouTube les a amenées là. Donc, ça me rassure quand même sur le fait que c'est pas totalement fermé. C'est juste que la concurrence est rude, mais si vraiment il y a que des gens qui regardent du contenu de développeurs et des trucs de niche qui ressemblent à ce que je fais, ils peuvent tomber sur ma chaîne finalement. Donc je pense que ouais, faut vraiment se poser la question. Soit on a envie d'être rentable absolument, et là faut mettre de côté ce qu'on a envie de faire, je pense, ou en tout cas s'adapter beaucoup plus. Et soit tu te dis bah YOLO, c'est une fenêtre d'expression, une belle vitrine. J'en vivrai peut-être pas, mais au moins je pourrais m'exprimer sur les sujets que j'ai envie. Voilà.
Je vais refermer cette parenthèse très vite et revenir à l'E3 2018 en posant une question à Yukishiro. Mais juste avant ça, j'aimerais faire remarquer quelque chose. Je suis cette actualité-là et ce rapport entre les créateurs et la plateforme YouTube depuis un moment. Et je vois beaucoup de créateurs extrêmement connus dire sur YouTube et notamment sur le YouTube anglophone. Pour nous, c'est un peu rude, mais on arrive à encaisser. Par contre, les pauvres petits créateurs. Et on se rend compte en discutant avec vous que pourtant, on n'est pas sur la communauté linguistique la plus populaire sur YouTube. Pourtant, on ne parle pas aux YouTubeurs les plus vus en France aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo. Vus, mais pas les plus vus. Vraiment, vous n'êtes pas sur un niveau de vue similaire à, je ne sais pas, par exemple, un certain Squeezie. J'espère vraiment que cette référence à Squeezie va finir dans le titre. Tu es condamné, Yukishiro, à la mettre dans le titre maintenant.
Ah zut.
Mais voilà. Mais pour le coup, et puis du coup,
j'appelle mes avocats tout de suite.
Non, mais ça va faire un petit coup de Google Alert chez Mixicom. Ça va faire ding, 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 ding. Ça va être très drôle. Quand ça sera publié avec Gamekult.com, moi j'attends ça vraiment. Non, pour revenir à mon propos, on s'aperçoit voilà que finalement c'est pas un si gros problème que ça et que pour vous au contraire ça vous ramène du monde et ça vous ramène du monde même si vous choisissez de ne pas dépendre de tendances mais de faire vos trucs et c'est un son de cloche vraiment différent et c'est intéressant de l'entendre. Maintenant, pour revenir à toi Yukish, je vais te poser une petite question rapidement. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière sur la couverture E3 de GK? Notamment sur la couverture en web TV. En tout cas, en apparence, la forme a un peu changé.
Changé d'une année sur l'autre, on change toujours un peu à la marge, hein. On fait pas non plus, on retourne pas la table, comme on dit. Là, cette année, on voulait faire une web TV qui soit plus assumée dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on était à peu près convaincus que l'an dernier, on avait trop voulu faire du débat et des choses un peu sérieuses. Donc, on a invité plein de gens l'an dernier, des auteurs, des youtubeurs, des développeurs de jeux vidéo. Et c'était des grands débats à 3h30 du matin sur la réalité virtuelle va-t-elle percer, microtransactions pour ou contre à 4h15 du matin. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens à 4h15 du matin, ils avaient juste besoin d'une bande de potes qui les aidait à tenir jusqu'à la conférence de 5h du mat.
Ils ont besoin d'un Yukishiro qui fait un doigt quand il n'y a pas le bon Final Fantasy qui est annoncé. Voilà de quoi ils ont besoin.
Ils ont besoin d'une forme de journalisme extrêmement pointu, comme tu le décris. Non, mais surtout, voilà, on s'est remis en question sur ce point-là. C'est qu'on s'est dit, bon, bah, limite, on va assumer que sur les confs, la valeur ajoutée d'un Game Cult, on va pas se raconter l'histoire, elle est relativement nulle. Pourquoi Game Cult sert à quelque chose sur l'E3? C'est parce que précisément, on va à l'E3, qui en fait rien à voir avec les conférences. Les conférences, c'est un truc pré-E3 qui organise par les sociétés elles-mêmes, elles prennent le temps d'antenne sur Twitch et dans les médias parce que avant le 3, bah forcément il n'y a pas de 3, mais dès que le 3 commence, nous on commence à bosser, c'est-à-dire que nous on fait le compte-rendu à Paris de ce qui a été annoncé, mais c'est Los Angeles qui va taffer, donc on a envoyé cette année, si je te dis pas de bêtises, 5 personnes, et ces 5 personnes ont filmé, rencontré, interviewé, joué, essayé, et c'est pour moi plutôt à ça qu'on sert. Les conférences, on est plutôt là effectivement pour les rendre intelligibles, pour les traduire si nécessaire, pour les résumer surtout sur le site, et aussi voilà accompagner le visionnage, ce qu'on appelle le visionnage social, c'est-à-dire un peu comme quand tu regardes des élections de Miss France ou Koh-Lanta et que tu commentes toujours sur Twitter, je sais pas si t'as déjà vu ces grandes chaînes de tweets avec des hashtags qui te rendent fou.
En fait, c'est Inside Xbox qui le fait à fond en ce moment, voilà. Et qui fait très ah mon Dieu Jean-Paul du 76, ton mode a l'air fantastique, allez vas-y on t'envoie un jeu.
Voilà, et en gros bah du coup nous on s'est dit qu'on allait aussi embrasser cette tendance de visionner en même temps que les viewers, leur offrir on va dire un petit peu de courage quand il s'agira de tenir jusque 3-4 heures du matin. Mais voilà, on a allégé, si c'était ta remarque, on a allégé le ton du truc. Après, on n'a pas tant changé que ça. Nous, on est assez contents de notre E3. Mais par contre, je ferai une remarque quand même sur le E3 rapidement. C'est que ça a énormément évolué. Depuis que moi, je suis dans l'industrie, moi, je suis rentré à Gamecube en 2006. À l'époque, on n'avait pas la vidéo en direct. Les conférences étaient, je crois même pas encore en direct. Si elles l'étaient, elles n'étaient pas forcément restreamées avec des commentateurs journalistes. Donc, elles étaient simplement résumées à l'écrit ou alors avec un petit best-of, etc. Donc c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Les conférences s'adressent encore aux journalistes et pas aux internautes, ce qui est aujourd'hui le cas. On a publié un article très presse occulte il y a 10 jours sur c'était quoi l'E3 avant Internet. Et j'invite tous les abonnés premium à le lire parce que ça raconte justement l'E3 dans les années 90, parce que l'E3 c'est 1995. Donc t'imagines bien que quand ils annonçaient la PlayStation 1, la Saturn et tout, en fait il fallait juste faire des photos parce que il y avait pas de conférence quoi, donc il y avait pas de stream, c'était pas en direct quoi, donc tu ne pouvais pas savoir ça à moins vraiment que t'aies une télé américaine qui filmait et qui retransmettait sur CNN ou que sais-je. Donc ce que ça m'a appris, parce que moi j'étais pas encore dans le milieu à l'époque, en 95 j'étais encore jeune, c'est que depuis 25 ans l'E3 ça va de plus en plus vite, en fait il y a de plus en plus d'urgence. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. nous obligent maintenant, dès qu'il y a une annonce qui est faite, à sortir l'article, à être toujours dans l'instant. Et je pense que c'est de plus en plus épuisant de suivre un E3 aujourd'hui.
Oui, effectivement, c'est de plus en plus épuisant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la couverture en direct, je veux dire, le nombre de conférences a également vachement augmenté. Quand tu te rends compte, le nombre de petits événements ou de streams.
Il y a une telle guerre de l'attention que du coup, ils étirent les conférences sur 4 jours maintenant.
C'est assez rock'n'roll. Puis, on a près d'une dizaine maintenant, si on compte vraiment tout, y compris les plus petits. Donc, ça devient délicat à couvrir. Et justement, pour parler de la couverture de l'E3 2018, ça tombe bien, puisque j'ai rencontré Thomas Bideau d'Ico Partners, analyste bien évidemment. On a discuté de l'E3 2018, de sa couverture en termes de conférences et également de jeux. Il m'a fait part de son analyse. Écoutez donc. Salut Thomas.
Salut Yann.
Alors aujourd'hui, dans cet épisode un peu estival de Presse Occulte, on va revenir sur l'E3 2018 dans ta chronique. Et donc niveau analyse, niveau attention de la presse, attention également des lecteurs, comment est-ce que les regards se sont portés sur les conférences constructeurs lors de l'E3, les conférences de Sony, Microsoft et Nintendo ?
Cette année, on a des tendances qui sont assez intéressantes avec... On va dire contre toute attente pour moi, une perte de la part de la voix, une part de l'audience de Sony PlayStation et de Microsoft avec Xbox face à Nintendo. Alors ça s'explique parce que Nintendo garde un intérêt assez fort, ils sont encore plus petits, c'est à peu près 50% de moins d'articles que Sony ou Microsoft. Mais Sony et Microsoft sont en perte de vitesse. C'était des conférences qui n'avaient pas forcément de star hardware, comme on a pu avoir l'année dernière, même si c'était des améliorations des consoles plutôt que de nouvelles consoles. Et on va dire des annonces de nouveaux jeux, donc certains jeux très prometteurs, mais rien de vraiment exceptionnel de leur côté. Et du coup, une perte de terrain par rapport à Nintendo qui... avec sa formule qui n'a pas de conférence de presse en physique, se maintient très bien et garde une belle présence à ce niveau-là.
Mais ça titille mon sens d'observateur de l'actualité du jeu vidéo, parce que autant du côté de Sony, je comprends tout à fait, ils ont fait moins que les années dernières, ils se sont concentrés sur un nombre limité de jeux, autant Microsoft a quand même balancé la patate, et je crois que les retours critiques ont été assez positifs là-dessus. Quant à Nintendo, bien au contraire, il y a eu moins de jeux, il y a eu un énorme focus sur Smash Bros qui devait pas non plus être énorme en termes d'actualité, donc c'est quand même très étonnant de voir se chasser croisé, là encore une fois, si on en lit les journalistes, pas facilement prévisible.
Alors moi aussi je suis surpris, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà c'est la beauté d'avoir des chiffres et de pouvoir affronter ses attentes et son instinct face à la donnée brute. Donc par rapport à Nintendo, je pense qu'il faut, faut tenir compte de la surpopularité de Fortnite, qui s'est annoncé sur Switch, s'est lancé sur Switch cette semaine-là.
Donc même quand quelque chose leak, ça garde sa valeur d'actualité, c'est assez intéressant ça aussi.
C'est, oui, et c'est assez fascinant. Et c'est un vrai, une vraie performance à ce niveau-là. Donc du coup, Nintendo s'en sort pas qu'avec ses propres annonces à soi, en fait, avec ses propres jeux, j'entends. Donc, belle position. Microsoft, moi aussi, j'étais surpris. Je trouve que c'est une des meilleures conférences Microsoft depuis des années, avec des signes avant-coureurs de changements stratégiques que je trouve prometteurs. Le rachat de 4 studios, l'établissement d'un cinquième, on sent que, ok, d'accord, il y a effectivement une volonté de monter en puissance en fond qui laisse présager de bonnes choses pour eux.
Et du côté des jeux, de quoi a-t-on le plus parlé durant cette E3?
Alors, justement, on a beaucoup parlé de Fortnite. C'est un peu la faille de la méthodologie que j'utilise, qui est de regarder les jeux dont on parle pendant une semaine donnée. Et Fortnite, on en parle tout le temps. Mais à côté de ça, Fortnite avait quand même plein d'annonces. Il y a eu la version Switch. Il y a eu la version pour PlayStation, avec la controverse de l'accès au compte, enfin le crossplay entre PC et console, et Sony qui se garde de jouer avec ses petits camarades consoliers.
Autour des mêmes dates, il y a également eu le tournoi Pro-Am, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, qui était aussi pitché autour du fait que c'était pendant le 3. Donc voilà, Fortnite en tête, sans trop de surprises, mais sans nécessairement révéler grand chose sur ce qui était intéressant en E3. Les jeux qui suivent, dans l'ordre, c'est Fallout 76, Cyberpunk 2077, Kingdom Hearts 3 et Assassin's Creed Odyssey. Et là, on se retrouve avec bon, alors déjà un peloton de tête avec des chiffres dans tous les noms, mais bon, c'est normal. Mais surtout, donc un jeu Bethesda, un jeu CD Projekt, un jeu Square Enix. Donc voilà, des publishers importants et influents, mais on ne parle pas de Ubisoft est arrive un peu après. Il n'y a pas d'Electronic Arts, il n'y a pas d'Activision, il n'y a pas d'exclusivité des grands consoliers qui sont dans le top de ces jeux. Donc c'est plutôt un E3 où on va dire un second tir de publishers ont réussi à tirer leur épingle du jeu et peut-être un signe d'un intérêt pour des jeux qui offrent plus de nouvelles choses.
Très bien, bah merci beaucoup Thomas, on te retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.
À bientôt.
Nous sommes de retour dans Presse Occulte, toujours avec Lola et Mea, ainsi que mon saint patron Youkish, dossier dans lequel donc on va parler de YouTube quand on n'est pas une méga star, mais quand on est, voilà, par exemple, Lola et Mea. On va donc en parler, et j'ai envie qu'on évoque plusieurs points. Le premier d'entre eux, qui est tout simple et qui va permettre à nos auditrices et nos auditeurs d'un peu vous situer, c'est de comprendre si vous vivez de ce que vous faites. Lola, est-ce que tu vis de tes vidéos? Est-ce que tu vis de développeuse du dimanche?
Alors, par où commencer? En fait, moi, ce qui m'a financée au tout début, on en rigole souvent, c'est la première entreprise qui finance tous les youtubeurs, mais c'était Pôle emploi, quoi. Je pense que je suis pas la seule, hein. J'ai entendu vraiment beaucoup de gens que ça a aidé. Et puis voilà, une fois que je suis arrivée sur la fin de mon chômage, j'ai songé à Tipeee. Donc j'ai lancé une vidéo pour expliquer un petit peu la situation avec mon public finalement. Leur dire que moi j'aimerais bien avoir un peu de sous pour pouvoir continuer le développement de mon jeu en fait. Parce que finalement, c'est surtout ça qui finance. Ils financent bien sûr une partie un peu du matos de la chaîne quand il y en a besoin, mais en fait Tipeee et YouTube, ça me permet de financer mon jeu. Alors là maintenant, point de vue revenu, en fait grâce au Tipeee je paye ma part du loyer et je touche un poil plus, ce qui fait que c'est limite, mais ça me permet de tenir.
On peut dire à combien il est ton Tipeee, juste comme ça pour qu'on situe à peu près?
Ouais, mon Tipeee, en ce moment, il doit être à 430 et quelques euros.
D'accord, donc en fait, pour mieux comprendre ceux qui ne connaissent pas du tout le système, c'est qu'en fait, c'est une somme qui tombe par mois, parce que les internautes s'engagent à verser une somme X, donc 1 euro, 2 euros, 20 euros, tous les mois. Et donc, en additionnant ce que chacun donne, il y a 76, là, si je lis bien, tu as 438 euros par mois qui tombent de manière, on va dire, à peu près sécurisée, quoi.
C'est ça, et en fait, il y a quand même un petit point important, c'est que effectivement, ça peut être des revenus réguliers, il peut y avoir des personnes qui disent « Ok, je te donne 5 euros de manière mensuelle », mais il y a moyen de faire vraiment un type unique, donc vraiment dire « Je te donne 5 euros là », mais ça ne sera pas forcément stable.
D'accord.
Donc moi, j'ai vraiment la chance que les gens qui me suivent soient assez nombreux et assez stables, ce qui fait que voilà, je touche à peu près tous les mois 400 euros. Moi, ce qui est très bien, hein. Franchement, pour la taille de ma chaîne, c'est presque bizarre. Mais je suis contente. Et oui, avant de me lancer, malgré tout, j'avais quand même économisé un peu pendant que je bossais, histoire de me dire si jamais ça se passe vraiment mal, j'ai une petite sécurité. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donnerais s'il y a des gens qui veulent se lancer dans n'importe quel projet. Faites attention quand même, parce que on glorifie vachement les histoires rocambolesques. Je pense notamment aux développeurs de Cuphead. Ouais, ils ont hypothéqué leur maison, mais regardez, ça valait le coup. Ils ont fait un jeu trop bien et ils ont gagné plein d'argent. Et pendant ce temps-là, sur le côté de la route, il y en a une centaine qui n'a pas réussi à s'en sortir et pour qui ça s'est très mal passé. Donc, faut aussi parler des cas où ça se passe mal. Donc, soyez prudents, en fait. Soyez pas foufou. Et voilà, Tipeee, pour moi, ça marche bien. Si je voulais monétiser avec YouTube, ça me rapporterait que dalle. Donc voilà, je suis pas à plaindre.
Donc c'est possible d'avoir quand même une forme de stabilité financière pour commencer un peu à rentrer dans le débat que l'on a annoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que sans être Squeezie, sans être Norman et sans être finalement un joueur du grenier, donc un très 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 gros YouTuber, il est possible d'avoir quand même une forme de stabilité dans le revenu, mais il faudra pas passer par YouTube directement, ni même par les annonceurs ou les marques elles-mêmes. En fait, l'argent vient d'Internet, enfin des internautes.
Ouais. En fait, c'est possible, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est très éphémère. Si du jour au lendemain, Tipeee, ça ferme, clairement, je suis dans la mouise. Mais non, c'est possible. Après, il ne faut pas vouloir gagner... Enfin, voilà, moi, je ne gagne même pas un SMIC. Donc là, c'est vraiment même pas la moitié d'un SMIC. Donc, faut aussi avoir les conditions requises qui fonctionnent bien. Mais imaginons, je ne sais pas, un RSA et un bon Tipeee. Techniquement, ça permet de tenir. Donc, c'est possible. C'est plus compliqué, mais effectivement, ça peut se faire.
Pour toi, Mea, la situation, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu fais avec à la fois 24 FPS et l'antre d'humain ?
Depuis quelques mois, depuis décembre, janvier, en fait. Mais après, moi, ça faisait 8 ans que j'étais sur YouTube, donc aussi, je commençais à avoir une bonne... Enfin, j'aime pas ce mot, fanbase, mais... bon nombre de personnes qui me suivaient régulièrement, quotidiennement, et donc quand j'ai lancé Tipeee, ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Je l'ai lancé après 8 ans. Donc, je me dis que c'est peut-être pour ça aussi. Je fais des piges à côté, ce genre de choses pour justement essayer. Mais c'est pareil, c'est un SMIC, quoi. J'arrive à avoir un SMIC, mais effectivement, je me dis que si, enfin. Après, il suffit de faire des placements de produits, ce genre de choses, et puis on peut facilement grimper. Mais c'est ce que dit Lola, c'est éphémère, quoi. Toutes les personnes qui ont pas mal de vues en ce moment, je pense, pour en citer, on va dire David Lafarge, allez, pour citer à peu près la personne qui est à la mode depuis quelque temps, et même encore, je crois que ça s'est tassé. Mais voilà, lui, il a fait des vidéos par rapport à un buzz, par rapport à une mode. Et maintenant, la mode est légèrement passée, et du coup, il faut qu'il continue à suivre les modes, mais je ne sais pas si dans plusieurs années, il pourra être engagé sur la base de « c'est la personne qui ouvre des boosters Pokémon ». Donc, moi, YouTube, j'ai toujours considéré comme un terrain d'expérimentation, comme quelque chose pour continuer à faire des vidéos, à garder un travail intellectuel, alors que j'étais téléopérateur, donc je faisais quelque chose vraiment d'automatique, sans réfléchir, quoi. Et du coup, je voulais garder ce genre de travail à côté pour continuer à faire des articles. Du coup, je l'ai posté en vidéo. Mais j'ai jamais pensé un jour me dire je pourrais vivre de YouTube, quoi. Ça a toujours été quelque chose d'à côté. Là, en ce moment, je peux, donc ça, c'est super, mais c'est après 8 ans. Ben voilà, mais par contre, effectivement, je reste conscient que ça peut du jour au lendemain tout peut basculer. C'est pas quelque chose de où il faut faire vraiment sa carrière dessus.
D'accord. Moi, j'ai une question assez simple sur peut-être une idée reçue. En fait, là, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est de voir, on va dire, ces autres youtubeurs qui sont pas forcément connus de BFM TV, etc., mais qui font quand même du jeu vidéo et qui ont une chaîne assez populaire. Et c'est le cas de vos deux chaînes. J'ai envie de savoir, est-ce que vous vous sentez plus proche de votre communauté ? Tu refusais le terme fanbase tout à l'heure. Je peux comprendre pourquoi. Mais est-ce que par rapport à un Cyprien, par rapport à un Norman, par rapport à un joueur du grenier, par rapport à tous ces youtubeurs qui ont des fans par millions, est-ce que vous, du coup, le fait que vous ayez des communautés un peu plus petites et j'imagine peut-être aussi un peu plus pointues, en tout cas, qui est peut-être moins dans le snacking de vos vidéos, qui va vous suivre peut-être un peu plus finalement, est-ce que vous avez l'impression du coup que les interactions que vous pouvez avoir avec eux sont plus riches qu'avec un gros youtubeur qui finalement va regarder ses stats sans forcément lire les uns et les autres et interagir avec sa communauté? Est-ce que vous, ça c'est un truc que vous utilisez qui vous semble un atout dans votre façon de gérer votre chaîne?
Bah, moi je sais par exemple que j'ai plein d'amis maintenant qui étaient les personnes que j'ai connues parce qu'ils regardaient mes vidéos et qu'on en a discuté une fois, et puis tout ça permet de lancer un bon c'est un bon sujet de conversation à la base. C'est je regarde ce que tu fais, puis du coup on discute comme ça. Voilà, donc non moi j'ai eu des potes comme ça justement qui sont pas forcément dans le métier de youtubeur, qui sont complètement dans autre chose, et puis mais que ça s'est fait comme ça.
Et inversement des commentaires négatifs, c'est-à-dire si on va vraiment dans l'extrême inverse, donc des types qui vont être un peu plus durs avec vous, on sait que sur YouTube parfois ça peut être extrêmement méchant, le fait justement que vous avez une communauté un peu plus resserrée, est-ce que vous êtes plus exposé à ce genre de choses?
Moi déjà je suis un homme, donc c'est déjà plus rare. Ouais. Et puis j'en ai, mais ils font que passer, j'ai l'impression, sauf certains qui restent pendant des mois en disant tu fais de la merde, et puis tu bah oui mais tu regardes quand même, donc c'est pas très grave, mais non, moi ils font que passer et ils restent pas, et du coup j'ai pas l'impression que y a pas ce côté hate, enfin il y en a 2-3 mais c'est vraiment très rare, c'est pas, il y a pas ce côté hate watch qu'on peut avoir sur certains youtubeurs justement qu'on va regarder juste parce qu'on le déteste, et puis qu'on va après dans les commentaires on va dire
et toi Lola?
Bah alors moi, pour revenir du coup sur le côté effectivement proximité avec les gens qui me regardent, c'est ce que je trouve chouette dans le fait d'être entre guillemets un petit. C'est que moi en fait j'ai mes chouchous, je les vois dans mes commentaires, sur Twitter, sur mes live Twitch, je les reconnais. On est toujours content de se retrouver pour discuter, et puis je sens qu'ils me soutiennent, mais vraiment sincèrement. C'est pas juste un like posé pour dire ah chouette j'ai bien aimé ta vidéo, c'est vraiment des messages de soutien, bah voilà, des gens qui vont m'aider financièrement. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, parce que c'est assez galvanisant. Tu te dis bah je fais pas ça pour rien, enfin même si moi ça m'amuse, je trouve ça cool qu'il y ait des personnes que ça intéresse et qui ont envie de voir ce que je fais, donc ça c'est chouette. Même si je mets quand même toujours un point d'honneur à dire c'est cool, on s'entend super bien, moi ça me fait plaisir de vous parler, mais je garde quand même une certaine distance parce que j'ai pas très envie que des gens pensent direct que comme je suis sympa avec eux sur Twitter ou YouTube qu'on est amis. Moi ça me met mal à l'aise, il y a pas mal de personnes qui s'emballent très vite, et comme je suis une personne gentille, j'ai un peu du mal à les canaliser et leur dire en fait tu vois c'est très cool, j'adore ton soutien, mais je peux pas faire ça avec tout le monde, et puis moi qui suis un peu angoissée sociale, c'est compliqué quoi. Mais sinon dans l'ensemble ça se passe très très bien, et j'ai l'impression que la majorité comprend cette limite et il y a pas vraiment de souci. Après pour tout ce qui est commentaires négatifs, franchement, je suis assez épargnée. Moi, les commentaires qui me touchent le plus, c'est pas le « lol, t'es moche » en bas d'une vidéo. Ça, bon, je me dis, c'est quelqu'un qui s'est égaré. Il n'y a rien de bien méchant. Mais ça va être, moi, ce qui me gêne, c'est les commentaires un peu paternalistes. Je veux dire, je suis quand même game designer, c'est mon boulot. J'ai été chez Ubisoft, j'ai sorti des jeux et tout. Et les gens qui viennent me dire « oui, alors je pense que tu ne t'y connais pas vraiment sur ce point de game design, nanana. » Alors que c'est Jean-Michel Random qui n'a jamais fait de jeux vidéo de sa vie.
Ouais, ouais. Donc tout ce qui est un peu argument d'autorité et qui arrive sur toi en mode laisse-moi faire, je sais quoi.
C'est très, ouais. Très, très énervant. En plus, là, dernièrement, un exemple qui m'avait bien saoulée, c'était... comme là, en fait, je fais un jeu qui s'appelle Propaganda et qui va traiter un petit peu de thématiques... antimilitariste, comment on perçoit l'autre, genre, c'est qui a commencé, est-ce que ça marche vraiment dans un conflit, enfin voilà, j'avais commencé à parler de ça, et j'avais bien précisé dans ma vidéo que je restais très évasive sur le concept et le contexte pour pas spoiler. Et ça m'a valu un commentaire à rallonge pour me dire que j'y connaissais rien en géopolitique, alors que j'ai fait justement dit exprès que j'allais pas en parler pour pas spoiler. Et ça a été vu comme une lacune, un truc un peu saoulant, mais voilà, je lui ai pas répondu parce qu'il a dit qu'il allait me typer quand même. Alors voilà. Mais dans l'ensemble, ça va, et vraiment les commentaires glauques, méchants ou déplacés, même si j'en ai eu, ça reste tellement anecdotique que ça me touche pas tant que ça.
Écoutez, là, tout à l'heure, Mea avait parlé de sa fanbase. Je vais revenir là-dessus, même si le terme fanbase n'en veut pas. Je vais quand même l'imposer comme ça, juste pour la vanne. Non, plus spécifiquement sur l'audience. Toi, tu as lancé ton Tipeee après 8 ans, Mea. Comment est-ce qu'on construit cette audience sur YouTube? Est-ce que ça prend énormément de temps? Est-ce que c'est, disons, par palier, par vidéo? Est-ce que c'est complètement mystique? Est-ce que ça t'est juste tombé sur le coin de la tête? À quoi est-ce que tu attribues aujourd'hui le public qui te suit?
Ça, pour moi, ça reste mystique quand même. Parce que comme je disais, YouTube, je comprends pas. Mais je me dis souvent que je fais partie des meubles du YouTube français, donc il y a pas mal de personnes qui finalement des fois se disent oh, je vais quand même regarder ce qu'il fait ou ce genre de choses, mais voilà, ça grimpe vraiment par vidéo, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est que ouais, quand je fais une vidéo particulière sur un sujet particulier et boum, il y a plein de gens qui arrivent. Et c'est pour ça que j'essaye quand même d'éviter si possible les vidéos à buzz. J'en avais fait 2-3, enfin, sur un sujet précis sur YouTube, le YouTube de ce moment, ce genre de choses. Et en fait, c'est des personnes qui arrivent d'un coup, puis après ils voient que je fais pas du tout ce pour quoi ils sont venus, et du coup ils repartent. Donc moi, ma communauté YouTube, c'est quelque chose qui est resté constant, mais je pense que c'est parce que je fais à peu près le même travail, on va dire, depuis 8 ans, quoi, avec des progressions ou pas, mais en tout cas je garde la même ligne de conduite en essayant de faire à peu près toujours les mêmes sujets, enfin pas les mêmes sujets, mais le cinéma et jeux vidéo, pop culture des années 90, parce que c'est ce qui me plaît, et c'est aussi, je me dis, enfin voilà, les personnes qui viennent voir les premières vidéos, ils veulent en plus continuer à voir ce genre de choses qui moi me passionne, et puis ça me permet d'avoir mon créneau, et voilà, donc c'est pour ça je pense que le succès sur YouTube, moi, c'est venu avec les années, en tout cas je grimpe, mais vraiment petit à petit, quoi.
Alors, je m'attends peut-être à ce que ce soit la même réponse pour Lola, puisque pour ta chaîne YouTube, le concept est même gravé dans le titre de la chaîne, développeuse du dimanche. Ça laisse pas une énorme marge de manœuvre pour ensuite partir faire du trek au Pérou. Donc, est-ce que là aussi, la construction de l'audience, c'est quelque chose d'un petit peu mystique qui t'est tombé sur le coin de la tête? Est-ce que t'en as parlé sur des forums, sur des communautés, etc.? Comment est-ce que ça s'est construit?
Alors, en fait, je vais peut-être pas donner la réponse que t'attendais.
C'est pas grave, c'est intéressant également.
Eh bien, en fait, au tout début, j'ai pas compris, mais avec le recul, je trouve qu'il y a pas grand-chose de mystique, dans le sens où alors là, ça va faire la meuf qui se la pète, mais en fait, j'ai un concept de chaîne relativement.
En fait, t'as acheté de l'audience, c'est
voilà,
ça que tu veux
pas acheté,
dire.
Voilà, je les ai achetés. C'est que des faux abonnés.
Il y a rien de mystique. J'ai sorti ma carte bancaire.
Exactement, parce que je suis très riche en fait. Non, c'est que mon concept en fait est relativement unique sur le YouTube français, ce qui fait que j'ai visé une niche où j'avais vraiment la place. Et il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne, effectivement, je l'ai fait tourner, mais uniquement dans mon cercle d'amis, de famille et tout ça. Mais moi, mes amis, c'est des développeurs. C'est des gens du milieu, c'est des gens qui s'intéressent au développement indépendant. Ce qui fait que eux, ça les a intéressés tout de suite. Et comme j'ai un réseau très large, je suis partie avec un noyau d'abonnés fidèles de 100 personnes au bout de, allez, quelques jours. Et ces personnes intéressées, on fait circuler à d'autres personnes intéressées qui sont aussi développeurs, ce qui fait que le bouche à oreille dans le milieu indépendant m'a beaucoup aidée. Mais ça m'a fait venir un certain nombre d'abonnés, mais le maximum, je pense, d'abonnés que j'ai eu, ça reste quand même les autres youtubeurs plus gros qui parlent de toi. Quand j'ai participé à la scène ouverte d'Un Drop dans la Mare, ça m'a rapporté tout de suite plein de personnes. Un jour, Monsieur Plouf a recommandé ma chaîne. Hop, ça m'a ramené tout de suite plein de personnes. Donc,
c'est aussi la recommandation d'autres chaînes qui va reverser un peu des gens chez toi, d'accord.
Pour moi, pour les personnes, en tout cas de mon profil, c'est ça qui fait tout. Ce qui fait que si on n'est jamais relayé, ça marchera pas. C'est pas l'algorithme qui va spécialement nous mettre en avant, ou alors pour un très petit nombre de personnes. Donc moi, c'est vraiment les recommandations. Et Nesblog, quand j'ai rejoint Nesblog aussi, ça m'a aidé. Puisque ça tournait aussi dans ce milieu-là. Donc en fait, moi, ça a été vraiment le réseau, le bouche à oreille qui m'a fait grimper ma chaîne. Et effectivement, après, c'est tout ce qui est convention, festival, où tu vas faire une table ronde, ça va circuler un peu. Donc je sais mettre des mots sur ce qui s'est passé. Mais après, je reconnais que j'ai quand même beaucoup de chance que ça soit aussi bien goupillé pour moi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des trucs super cool et avec des concepts innovants qui avaient la possibilité de faire du bouche à oreille, mais pour qui ça a peut-être moins suivi. Je pense que j'avais juste le très bon entourage pour démarrer, en fait.
Alors, j'ai plein de questions. C'est un sujet qui me passionne, sur les algorithmes et sur le Nesblog, enfin, en tout cas, le rôle d'un Nesblog dans tout ça, mais on va le garder pour plus tard. J'avais juste une question assez simple. La réponse n'a pas forcément besoin d'être longue, parce que je pense que là-dessus, c'est assez facile à expliquer, mais on nous rebat les oreilles sur le streaming, sur la diffusion en direct de jeux, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui a un rôle dans votre popularité? Est-ce que c'est un truc sur lequel vous faites, vous mettez de l'attention ou pas spécialement? Est-ce que limite, on peut être populaire sur YouTube sans forcément faire du direct, contrairement à une certaine idée reçue par exemple?
Déjà, juste pour dire aussi que oui, effectivement, c'est vrai que quand j'ai rejoint le Nesblog, il y a eu un pic à ce moment-là, et après j'étais partagé plus, donc c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça qui a joué. Non, le streaming déjà, parce que j'ai pas le réseau internet pour, mais j'en fais de temps en temps, mais je sais pas trop. Je sais pas trop, parce qu'il y a ce côté, un peu, comment dire, télé-réalité, on va dire. Je sais pas comment dire ce mot, mais on a l'impression, on va voir des gens jouer chez eux. Alors il y en a qui arrivent à divertir, comme MV ou ce genre de choses, qui arrivent à divertir les gens. Mais moi, ça donne vraiment un côté voyeur qui est un peu particulier. Du coup, je le fais pas, justement pour ça. Mais des fois, peut-être, par envie, mais. Mais voilà, non, il faut. Par contre, je reste actif sur les réseaux sociaux. Il faut être son propre community manager, ça. Par contre, on est un peu obligé. Je sais pas vraiment si en postant les vidéos dans notre coin et puis en attendant que ça grimpe, je sais pas vraiment si ça attire des personnes. Non, il faut faire. Il faut le direct, je sais pas, mais en tout cas oui, ce que disait Lola, les salons, ce genre de choses.
Et toi Lola, du coup, le streaming, c'est un truc qui t'aide, ça t'intéresse ou pas plus que ça?
Alors moi, du stream, j'en fais. Mais encore une fois, je fais pas spécialement du let's play, ou alors c'est rare de temps en temps, je vais me faire un
petit... Vous le faites sur YouTube d'ailleurs, puisque vous êtes youtubeur, vous faites votre streaming sur YouTube ou vous allez sur Twitch dans ces cas-là?
Alors, moi je vais sur Twitch, parce que sur YouTube, ça marche pas trop. Enfin, ça marche bien pour tout ce qui est FAQ, trucs dans le genre, mais quand tu streams des jeux, j'ai l'impression que ça marche pas des masses sur YouTube, les gens ça les ramène pas trop. Mais en fait, moi, ce que je fais sur Twitch, c'est que je fais des trucs collaboratifs où mon gros projet du moment, c'est de créer un visual novel avec le chat de Twitch. Ce qui fait qu'ensemble, on va déterminer l'histoire, les embranchements. Donc en fait, quand je fais une session de Twitch, limite, je fais un atelier création de jeu tous ensemble. Donc c'est encore différent du let's play. Et je sais que moi, Twitch, ça m'a quand même ramené du monde. Des gens qui se sont égarés, qui sont tombés là, soit pendant un live let's play, soit pendant un live de création, et qui sont ensuite venus sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, j'ai l'impression que les deux se nourrissent. T'as des gens de YouTube qui vont aller venir voir sur Twitch, et l'inverse. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, Mea. Les réseaux sociaux, c'est ultra important. Je pense que si je m'étais pas mise sur Twitter, j'aurais pas autant d'abonnés non plus. Parce que mine de rien, Twitter, ça circule, ça te permet aussi de rencontrer plein de gens intéressants, d'échanger. Et puis c'est de là aussi parfois que viennent les recos. Et c'est tout bête, mais par exemple, quand il y a des personnes qui vont faire un thread sur... c'est quoi vos petites chaînes vraiment pas trop connues que vous aimez bien parce que je cherche à me diversifier? Si t'as pas de compte Twitter, personne va te taguer, ce qui va rendre du coup la répercussion de la personne qui pourrait parler de toi beaucoup moins efficace. Tu pourrais perdre la moitié des gens qui potentiellement auraient cliqué sur ton @ et seraient allés voir ce que tu fais. Donc streamer, pour moi, ça m'apporte des choses, mais encore une fois, voilà, je fais des streams un peu particuliers, donc qui sont quand même très liés à ma chaîne. Et les réseaux sociaux, si on s'en passe, ça ne peut pas marcher. Enfin, je pense que c'est pas possible.
Très bien, je vous pose une question qui n'a absolument rien à voir, mais qui là aussi est un poncif du côté voilà, du moment où on interviewe quelqu'un qui est sur YouTube. Est-ce que vous vous sentez en danger vis-à-vis de la plateforme YouTube elle-même? Que ce soit des questions de démonétisation par rapport à Content ID qui va sélectionner des contenus qui appartiennent à des ayants droit particuliers, par exemple des maisons de disques, des éditeurs de jeux, etc. Le règlement qui est fluctuant, l'algorithme dont on parlait tout à l'heure qui également change de temps en temps. Mea, toi, tu utilises beaucoup d'extraits de films notamment, également d'extraits de jeux. Est-ce que tu as eu de gros démêlés avec Content ID ou pas tant que ça?
J'en ai eu, mais c'est la roulette russe. On sait pas trop quand est-ce que ça tombe ou quand est-ce que ça tombe pas. Après, il y a plusieurs techniques pour éviter ça, éviter les gros extraits de musicaux très longs, parce que on sait particulièrement qu'on va se faire choper si on met une musique de plus de 30 secondes. Mais ça m'est arrivé. Mais après, il y a vraiment les seuls qui ont été supprimé, et ça m'embête un peu, c'est celle sur Is No Good, mais c'était FF1 Vidéo qui a demandé de l'enlever, parce que je disais que le film c'était de la merde, et du coup ils ont pas aimé. Voilà, ça, Robocop, enfin, toutes les critiques négatives, souvent, elles sont strikées.
et là, donc ils prennent le temps de regarder, ceci dit.
Parce que j'avais fait une vidéo sur Robocop 2 et Robocop 3, la Robocop 2 a été supprimée, Robocop 3 non, je dis que Robocop 3 est nul, Robocop 3 est pas si mauvais et que Robocop 2 est nul, et c'est celle qui disent elle était nulle qui a été supprimée. Pourtant,
c'est étonnant, comme une façon d'utiliser le strike de YouTube.
Bah ouais, après, la Visiteur 2, elle est toujours là, parce que je dis que le film, finalement, bon, il se laisse regarder, alors que c'est, je crois que c'était FF1 Vidéo aussi, hein, donc, elle est dans la playlist de Is No Good, donc s'ils sont tombés sur l'une, ils tomberont sur l'autre. Et je sais que j'ai Studio Canal qui me suit et qui me dit que Cliffhanger c'est une bonne vidéo et que du coup, et puis, je pense que c'est pour ça qu'elle a pas sauté, mais oui, c'est la roulette, on sait jamais, mais après il y a plusieurs techniques pour éviter ça, et puis si la vidéo est démonétisée, c'est pas trop grave. Moi c'est pas grave, tant qu'elle continue à être regardée, c'est parce que dans tous les cas ça attire quand même des personnes, donc ça c'est pas très grave. Mais c'est quand elle saute, surtout pour des questions un peu nulles du genre on n'a pas aimé votre critique de mon film, voilà, ça c'est dommage. Mais c'est le jeu, hein, on est dans la, enfin, mettre des extraits de films, ce genre de choses, même si on parle de, ça reste dans l'illégalité, puisque c'est, enfin, moi je monétise, et donc du coup ça reste quelque chose qui n'est pas techniquement qui n'est pas légal.
Je pose une question qui me paraît très intéressante dans la même lancée cette fois-ci à Lola, puisque la thématique de ton jeu est, on va dire, un petit peu délicate vis-à-vis des nouvelles recommandations de YouTube. Alors ça a plutôt lieu sur la monétisation pour le coup, mais quand même. Donc est-ce que tu sens, toi qui traites un sujet un peu politique, un peu sensible à travers ton jeu qui lui-même est chroniqué à travers tes vidéos, est-ce que tu sens un peu le souffle de la multinationale sur ton dos, ou est-ce qu'au contraire pas de soucis?
Non, parce que mine de rien, enfin, ok, mon jeu s'appelle Propaganda, je traite un petit peu de sujets antimilitaristes, mais finalement j'en parle, mais pas si souvent que ça, parce que c'est le contexte, mais comme je garde le scénario un peu flou pour pas trop spoiler les gens, mine de rien je parle beaucoup plus de techniques, de méthodes, de bugs, ce qui fait que on vient pas trop me chercher, et puis de toute façon je vois pas trop comment on pourrait venir me chercher, étant donné que je suis pas monétisée, à moins de me faire fermer ma chaîne parce que je montre des trucs scandaleux. Bon, je fais un jeu en pixel art minimaliste, donc franchement je pense pas que ça puisse me tomber dessus. Après, moi, mon plus gros problème, c'est les musiques. J'utilise pas mal de musiques de jeux vidéo en fond, parce que souvent on est tranquille avec les musiques de jeux vidéo, sauf les musiques Nintendo. Qui sont très à Nintendo, ils sont au taquet. Tu peux prendre les musiques de Kirby sur NES, ils vont te dire ah ah ah. Non, c'est à nous, on te monétise. Ce qui fait que ma parade de je vais prendre des musiques de jeux rétro pour être peinard, ça marche pas dans tous les cas. Mais moi c'est vraiment juste la musique qui me pose problème. En fait, comme moi je monétise pas, j'ai pas envie que le bot reconnaisse ma musique et dise ah c'est à nous. Du coup on met une pub sur ta vidéo et tu n'en toucheras rien. Et ça fait quand même chier, parce que certes, bon, je suis dans l'illégalité techniquement, c'est les règles du jeu, je les connais, donc si j'ai perdu, c'est voilà, il n'y a pas de grosse surprise. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce que t'as mis 25 secondes pour ton générique de fin sur une vidéo de 12 minutes, qu'on récupère l'intégralité des revenus générés à ta place. Moi, limite, il y aurait un système de pourcentage, ça ne me dérangerait pas. Enfin, je trouverais que ça serait plus logique. D'accord, ok, 25 secondes, et bah, ces 25 secondes sont à nous. Le reste, tu touches. Donc, voilà, je pense que c'est un petit peu crier dans le vide de dire ça, parce que YouTube, je pense qu'ils s'en fichent royalement. Mais non, pas trop de peur de mon côté, ça reste gentil.
Moi, je voudrais vous relancer sur une question sur les algorithmes, parce que c'est un truc qui m'intéresse. Moi, je suis pas du tout youtubeur, on a une page YouTube dont on s'occupe pas trop, parce que pour nous, c'est pas très intéressant. Mmh. Mais moi, à chaque fois que je vais sur YouTube, et pourtant, Dieu sait, je regarde aucune de ces vidéos, la homepage de YouTube me déprime énormément. Alors, je sais pas si elle est, à quel point elle est personnalisée selon ma navigation, mais encore une fois,
je regarde pas ces français, gens. Donc tu as tous les top musicaux français. Voici un clip de Kenvi.
Mais en gros, tous les youtubeurs jeux vidéo et plus spécifiquement les vidéos en l'occurrence et youtubeurs, c'est que des trucs débilous avec des titres un peu merdeux et en gros ça reste des sujets un peu bas du front quoi. Donc je me demande, vous en tant que créateur de contenu qui essayez, et on doit vous le reconnaître, de faire de la qualité en tout cas, qui essayez d'aller au-delà de simplement des réactions des reaction vidéo ou ce genre de conneries, est-ce que c'est pas frustrant en fait? Est-ce que vous avez un peu le même ressenti que moi lorsque je me lance sur l'homepage YouTube et j'ai l'impression de voir quand même un site qui est pas du tout pour moi en tant que fan de jeux vidéo?
Mais tu parles de la homepage ou de l'onglet tendance?
Alors moi je parle de la homepage, vraiment l'endroit où j'arrive sur YouTube après l'onglet
tendance.
Ton
panneau à toi.
Voilà, c'est vraiment D'accord. le truc que moi je vois. Il me suggère en fait, l'algorithme suggère évidemment des gens, donc il a bien compris que j'allais sur du jeu vidéo parce que moi je vais sur YouTube en fait souvent pour soit regarder des trailers, soit même gérer la page Game Cult de YouTube. Donc il a identifié que j'étais jeu vidéo, donc ça c'est bien, il est fort. Mais par contre, il va jamais essayer de me pousser à un panaché de on met de l'humour, on met du Fortnite et on va mettre la développeuse du dimanche, tu vois. Ça va souvent être du Fortnite avec un peu de Fortnite et tentant pour varier mettra Fortnite. Mais globalement, voilà, j'ai que ce genre de vidéo. Donc est-ce que c'est moi qui clique quand je suis insomniaque sur des vidéos à la con, ou c'est juste l'algorithme qui est fait comme ça?
Alors moi je sais que ma homepage à moi, elle est plutôt fidèle à ce que j'aime, mais en même temps il faut dire que je passe beaucoup de temps sur YouTube et je clique sur plein de trucs, mais après il va surtout me recommander des chaînes que je connais déjà et il va me recommander d'autres vidéos de chaînes que je regarde. Ça va être rare qu'il me propose quelque chose de vraiment sur le sujet mais d'une chaîne différente. Et le seul cas où ça arrive, et là c'est turbo déprimant, c'est moi j'aime bien regarder des chaînes qui parlent de féminisme. Donc je vais être sur des chaînes qui vont être vraiment progressistes et féministes. Mais lui il va repérer uniquement le mot féministe, ce qui fait qu'il va me recommander des vidéos pourquoi on devrait brûler toutes les féministes, pourquoi ce sont toutes des sorcières. Parce que le contenu d'extrême droite est vachement mis en avant, parce qu'il marche bien avec l'algo. Et ça c'est moche. Donc ça n'arrive pas surtout, mais il y a certains sujets où effectivement, par rapport au sujet, il va me montrer l'opposé de ce que je voudrais voir. Donc c'est pas encore hyper pointu. Enfin je trouve de mon côté, je sais pas ce que t'en penses Mea, mais moi c'est ça quoi.
Moi je sais qu'il y a 2-3 personnes qu'à chaque fois je dégage de ma homepage et puis qui reviennent souvent. c'est assez énervant. Je ne suis pas intéressé par cette personne.
Le vrai petit pro tip YouTube, c'est quand même de balancer son favori YouTube sur l'onglet abonnement et pas sur l'onglet accueil, ce qui vous permet quand même d'avoir une vue de ce qui vous intéresse.
C'est ce que je fais du coup.
Ouais, voilà. Enfin, ça c'est l'astuce. Évidemment, ça ne marche pas sur l'application, mais sur le reste, c'est vachement recommandé d'avoir ça, je trouve.
Ouais, la homepage, j'y vais très rarement, justement parce qu'il me conseille toujours des trucs que j'ai pas trop envie de voir ou que j'ai déjà vu en fait, c'est souvent ça. Mais je sais pas pourquoi il se dit que je l'ai pas vu, mais bon. Donc ouais, sur l'onglet abonnement, mais après l'onglet abonnement est un peu mal foutu maintenant parce que avant il te proposait par jour. Donc c'était ce que vous avez raté hier, ce que vous avez raté avant-hier, blablabla, et maintenant ils font juste la semaine dernière et ils te mettent juste une sélection de ce que tu as pu rater la semaine d'avant et souvent c'est des trucs ou c'est des chaînes où je me suis abonné parce que à une époque je m'étais abonné à ce genre de choses ou c'est des connaissances des trucs et puis des fois j'ai pas envie de voir toutes leurs vidéos et ils me les conseillent quand même sur la page abonnement des vidéos que je ne veux pas forcément voir. Donc c'est un peu mal foutu ça pour Yukish, tout ce qui est accueil, bon tendance n'en parlons même pas, mais tout ce qui est accueil, oui c'est assez mal fichu, mais
Moi je suis abonné à aucune chaîne, c'est vraiment la page abonnement, je sais même pas à quoi elle ressemble parce qu'en fait moi j'y vais juste pour regarder de temps en temps mais sans engagement quoi, tu vois, c'est vraiment casual. C'est vrai que du coup, quand je vois la sélection qui est faite sur mon historique de navigation, alors que la seule chose qui peut déterminer sur moi, c'est que j'aime le jeu vidéo, ça m'entriste pour mon métier, ça m'entriste pour les gens comme vous et pour les gens qui se cassent les noix pour se faire 10 000 ou 15 000 vues, alors qu'en fait, s'ils étaient en homepage, je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui adoraient leur travail, quoi.
Bah après, c'est comme disait Lola, c'est les règles du jeu, donc à partir du moment où on a fini par les comprendre et qu'on se dit que de toute façon, de manière, une vidéo qui, enfin, une de nos vidéos fera pas autant de vues qu'un quelqu'un qui fait un truc sur Fortnite, bon, c'est pas très grave, quoi.
Ouais.
Mais bon, voilà, c'est comme, enfin, c'est comme la télé, c'est comme le cinéma, c'est comme partout. Il y a, à partir du moment où on a compris ça, mais au début, c'est frustrant. C'est vrai qu'au début, c'est très très frustrant. Mais on s'y fait très vite parce qu'on se dit, c'est pas grave, de toute façon. Les personnes qui sont mises en homepage ou quoi que ce soit, c'est souvent des chaînes qui vont rester 6 mois en homepage et puis qui disparaîtront à tout jamais, remplacées par quelqu'un d'autre qui fait exactement la même chose. Donc.
Puis je sais pas pour toi, mais des fois je me dis, je préfère avoir une communauté de gens avertis, qui ont pris le temps de tomber sur mes vidéos, qui ont pris le temps de regarder, plutôt que d'avoir un flot de personnes qui va pas spécialement être intéressé par défaut par ce que je fais, et qui du coup vont m'amener une espèce de vague de commentaires qui seront à côté de la plaque 90% du temps. Donc moi ça me dérange pas d'avoir une communauté plus réduite, mais plus agréable aussi.
Bah, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de faire souvent des critiques de films récents, parce que je me suis rendu compte que bah effectivement en fait ça t'attire plein de personnes qui sont pas du tout habituées à ce que tu fais, et du coup qui comprennent pas forcément, enfin qui sont pas dans ton sens de faire des reviews de ce genre de choses, et qui du coup sont tout de suite ils détestent, enfin c'est pas qu'ils détestent, mais ils sont en retrait, quoi. C'est pas c'est pas une manière dont ils ont eu l'habitude de faire. Moi on me dit souvent, j'avais fait une vidéo avec j'avais une amie et sa chienne qui étaient là, et du coup les gens ont dit ah, le chien il est nul, faut l'enlever machin, puis la plupart des gens qui étaient habitués à ma chaîne ils sont habitués un peu à ce genre de bordel, de bazar quand je reçois des personnes, quoi. Donc effectivement je préfère que ça, oui, justement ça me fait peur à chaque fois quand il y a toute cette vague qui arrive, parce que je me dis mais la prochaine vidéo ils vont tellement pas aimer, parce que c'est tellement pas ce qu'ils ont envie de voir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Question pour moi, assez simple, entre produire une vidéo pour YouTube et produire une vidéo pour Gamekult, notamment derrière un paywall, est-ce que toi ça change beaucoup de choses dans ton travail ?
Oui, j'essaie d'être plus pro pour le paywall et plus moi, on va dire, pour ma chaîne, quoi, parce que je me dis que c'est Internet, et puis que voilà, on n'a pas non plus envie d'avoir des choses complètement propres, magnifiques, avec une énorme production derrière sur Internet, mais sur un paywall, je trouve ça un peu plus normal quand même que les personnes payent pour une prestation, faut quand même leur donner une prestation.
Également, je me permets de relancer sur la question des extraits utilisés. Ne pas avoir Content ID sur le dos, ça permet également d'avoir un peu plus la paix.
Ah mais tellement, oui, carrément. Mais enfin, plus la paix au niveau du montage, parce que justement, j'utilise moins les petits trucs pour essayer de pas se faire choper par le bot.
Après, évidemment, tu vas pas non plus distribuer une version complète d'un film en mode commenté par Mea dans 24 FPS, ce serait un peu bizarre.
Non, ce serait rigolo, mais non, je le fais pas. Mais après, je sais pas, je me suis jamais fait vraiment choper par le Content ID, donc... Pour l'instant, pour moi, que je fasse 24 FPS ou ma chaîne, je garde à peu près le même nombre d'extraits. Donc, voilà.
Après, tu sais, si tu parlais de TF1 vidéo tout à l'heure, je rappelle que Gamekult appartient à une boîte qui appartient à une boîte qui appartient à une boîte qui appartient à TF1. Oui. Donc, on est tous des présentateurs TF1 d'une certaine manière.
Et c'est très drôle parce que avant, j'étais journaliste sur le site DVDrama qui a été racheté par Excessif, qui appartenait à TF1.
Et du coup, TF1
me poursuit. Du coup, je suis revenu chez TF1. C'est très rigolo.
Nous appartenons tous à TF1 depuis notre naissance. Voilà, c'est-à-dire que c'est le monde appartient à TF1. Ils ont tout racheté.
Bah, j'ai un peu fait donc. Déjà à partir de là,
ils sont déjà infiltrés dans ta vie, Mea.
Exactement.
C'est l'histoire.
Je salue mon très Saint-Père, Gilles Boulot. Alors, nous allons passer à une autre question. Du coup, Mea, on y faisait référence tout à l'heure. On faisait référence à Nesblog. Tes épisodes et chroniques ont également été publiés sur Nesblog, le collectif cofondé par Ronan Le Tocque alias Real Myope. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ce que peuvent apporter ce type de relais pour tes émissions, nous expliquer dans le contexte dans lequel ça s'est fait, et si tu as le temps en quelques instants également nous dire, bah voilà, j'ai l'impression que tu ne les publies plus trop dessus, quelle est la logique derrière ça également.
C'est, Non, je suis plus trop dessus, en fait, c'est parce qu'il faut que j'upload moi-même les vidéos.
Ah.
Et en fait, c'est juste que des fois, j'oublie.
C'est du travail.
c'est juste ça. C'est juste qu'il faut que je le fasse. Et en fait.
Mystère élucidé. Ouais. Fantastique.
Ouais, voilà. C'est juste sincérité.
J'apprécie beaucoup.
C'est juste que j'oublie. Et puis, passer une semaine ou deux, je me dis que c'est plus très frais et que les gens sur le site, ils vont dire, bah non, c'est la vidéo, elle est déjà sur YouTube depuis deux semaines. Donc là, celle sur Jurassic Park, je vais essayer de la mettre très rapidement. Mais voilà. C'est
faire plaisir purement à par flemme.
Purement par flemme et j'en suis très navré. Mais sinon, le Nesblog m'a apporté énormément de choses. Alors déjà, comme on est des vidéastes qui faisons du semi-pro, on va dire, parce qu'il y a vraiment, enfin en tout cas Nesblog, ils ont des studios, c'est pro-pro, mais toutes les personnes qui gravitent autour, du coup on a envie d'être enfin moi ça m'a motivé pour faire du travail d'un peu plus de qualité, et c'est pour ça que j'avais changé un peu ce que je faisais avant. Surtout l'antre, c'était très très drôle et puis pas trop de recherche, ce genre de choses. Et puis une fois que je suis arrivé sur Nesblog, je me suis dit quand même, je suis sur Nesblog, je vais faire des trucs un peu plus fouillés et travaillés. Et ça m'a poussé. En plus, il y a Karim qui est dessus ou quoi que ce soit, donc ça m'a permis une sorte d'émulsion de le Nesblog, en tout cas positive.
Donc ça a été un déclencheur comme ça, d'accord. Juste sur comment ça s'est fait, ils t'ont contacté, au contraire, c'était quelque chose de beaucoup plus... ils t'ont repéré, t'es allé les voir, comment ça s'est passé?
Alors, je vais essayer d'être assez court, mais en gros j'étais sur PSB, Press Start Button, c'était un ami de maintenant, Étienne Fouillat de GE2, qui était tombé sur ma chaîne, et il a dit, ce serait cool que t'ailles sur notre site.
T'avais pas participé à un concours également?
Si, j'ai participé au concours et j'ai gagné le concours, justement, et Prestart Button, donc c'était, pour expliquer très rapidement, mais Inks s'y connaît, c'était un site internet le concept était très très cool, c'était tout un site de vidéastes sur le jeu vidéo, avec les personnes qui faisaient partie du site qui étaient mis en avant, et pas mal de personnes qui pouvaient poster leurs vidéos et avoir des conseils. Et c'était très très bien, parce que si jamais t'avais envie de voir des jeux vidéo, des vidéos de jeux vidéo, bah t'allais sur le site et t'en avais plein. Et c'était, le concept était très très cool. Ensuite, donc voilà, et dans ce site, il y avait Benzaï, mais il y avait aussi 80 miles à l'heure à l'époque, donc c'était par Real Myop. Il y avait Usul qui postait dessus, et donc bah voilà, quand il y avait le joueur du grenier, et donc du coup on s'est rencontrés plusieurs fois dans des conventions, ce genre de choses, et puis après on est devenus amis, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Un jour ils m'ont dit, bah est-ce que tu veux rejoindre le Nesblog, et j'ai dit oui. Voilà, donc c'est de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça.
Par les proximités sur internet. Et ben du coup, Yukish, c'est à toi, dernière question.
Oui, alors j'ai deux dernières questions, en fait, parce que j'ai réservé une question surprise à ton conducteur, mon cher Yann, désolé. Mais j'ai d'abord posé la question qui était prévue. C'est une question que ça reste surtout à Lola, en fait, parce qu'on a remarqué que, évidemment, t'es sur le format un peu vlog, mais on voit aussi que tu reprends d'autres codes, conventions, un peu YouTube-esque, si je puis dire, donc des FAQ, des vidéos d'annonces, des vidéos d'anniversaire de la chaîne, etc. Est-ce que ça, c'est des passages un peu obligatoires quand on veut faire connaître sa chaîne, ou est-ce que c'est devenu ça arrivait un peu tout seul? Est-ce que toi, t'as quand même regardé ce qui se faisait ailleurs en disant tiens, c'est pas forcément une critique d'ailleurs, hein, c'est pas nécessairement une mauvaise chose que de prendre ce qui se fait de bien ailleurs, mais est-ce que toi tu t'es quand même senti un peu obligé de te dire, si je veux quand même faire connaître mon travail, il y a ces codes de la l'émergence youtubesque que je veux, malgré ma différence, malgré ce que je veux mettre en avant de différent par rapport aux gros youtubeurs, je suis un peu obligé de respecter?
Alors en fait, ça a jamais été une obligation. Et ça n'a jamais été non plus dans une optique de ramener du monde, puisque c'est souvent les vidéos qui marchent le moins. Une FAQ, d'accord, elle est vachement moins regardée qu'un épisode classique. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, sauf peut-être s'il y a vraiment une révélation marquée dans le titre et que t'es un gros youtubeur. Non, par exemple, pour les FAQ, c'est très simple. C'est que comme je suis sur du contenu technique, et que j'ai finalement un côté, je raconte mon histoire, je raconte le développement de mon projet. En fait, je recevais des questions, mais à ne plus savoir qu'en faire, et j'arrivais plus à les gérer. J'arrivais plus à répondre. Donc, je me suis dit, le format FAQ existe. Comme ça, au moins, je vais faire une vidéo. Je vais répondre à toutes les questions qui sont largement posées. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes vidéos FAQ, je ne les supprime pas après un certain temps, contrairement à certains youtubeurs. Moi, je les laisse. Comme ça, si jamais des gens ont des questions, je leur dis, en fait, j'ai répondu dans telle FAQ. Et moi, ça me sauve du temps de ouf. Et pour la vidéo anniversaire, je trouvais que ça se prêtait bien à mon format, parce que je trouvais ça intéressant de montrer l'évolution, pas seulement de la chaîne, et juste pour dire ça y est, ça fait un an, mais surtout l'évolution de mon jeu, en fait. Parce qu'en un an, il se passe énormément de choses, et je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir qu'est-ce que ça représente l'anniversaire de la création d'un jeu. Parce que là, en fait, dans cette vidéo, j'ai fait une sorte de... Au tout début, ça ressemblait à ça, premier proto, et maintenant, on en est là. Moi, ça me faisait plaisir de la faire, en plus, parce que ça me motivait, et ça me rendait vraiment l'impression que, en fait, j'ai pas glandé pendant un an. J'ai vraiment fait des choses, et je pense que j'en avais besoin. Et aussi, c'était un moyen pour moi de faire une vidéo d'accroche facile pour les potentielles nouvelles personnes qui arriveraient. Parce que moi, c'est épisodique et ça se suit. Ce qui fait que si jamais tu débarques sur la chaîne, c'est déjà l'épisode 23, tu vas rien piger. Alors, si je mets, par exemple, un épisode anniversaire qui correspond à peu près à la moitié du parcours que j'ai fait pour l'instant, et bah, tu vas pas être obligé de te taper l'épisode 1 qui est mal monté, qui est chiant parce que c'était l'épisode 1. Donc, tu peux commencer par la vidéo anniversaire pour voir où en est le projet, et ensuite, tu continues. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça ressemble à des codes de YouTube classiques, et c'en est. Mais finalement, comme je les ai vraiment fait à ma sauce... Je pense que voilà, ça n'a jamais été dans une optique de rentabilité, mais plutôt, c'est pratique pour moi de faire ça, en fait.
Merci. Et dernière question, là, je vais m'adresser à tous les deux. C'est une question peut-être un peu provoque, encore, je ne sais pas. C'est que Oula. Le nerf de la guerre sur les gros youtubeurs, enfin, justement, on était parti dans ce débat avec Yann, sur il y a les gros youtubeurs, ceux que tout le monde connaît, ceux que ma mère connaît, et puis il y a vous, c'est-à-dire en fait des youtubeurs peut-être un peu plus modestes, en tout cas, on va dire intermédiaires, c'est-à-dire que vous avez quand même une grosse communauté, mais vous êtes sans doute pas non plus les plus connus du jeu vidéo. Et on sait très bien que le nerf de la guerre sur les gros youtubeurs, c'est les annonceurs, c'est la publicité, et plus exactement le contenu sponsor, c'est-à-dire en fait comment dire, le fait par exemple de faire des vidéos à façon parce que vous avez été approché par une marque qui s'est dit que ce serait bien que vous streamiez son jeu, que vous parliez de son film ou que vous montriez le produit d'une façon ou d'une autre, bon a priori plutôt positive voire neutre, mais souvent c'est assez positif. Et on sait très bien que Cyprien, Norman, tout ça se sont fait connaître par leur contenu on va dire tradit, mais se sont surtout rendus riches par le contenu sponsor. Est-ce que vous, en tant que youtubeur intermédiaire, vous êtes vu par ces annonceurs comme une cible potentielle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être contacté par des distributeurs de films, là je m'adresse plutôt à MEA, ou par des créateurs de jeux ou des développeurs indépendants, là j'ai plus m'adresser aux deux, pour essayer de dire bah voilà, je vous file 500, 1000 balles, 2000, 10 000 balles, 20 000 balles, 1 million, je sais pas, et vous parlez de mon jeu? Est-ce que ça vous est arrivé, ou est-ce qu'on va considérer que, étant des youtubeurs intermédiaires, vous êtes un peu hors du scope de ce business là?
Moi, j'ai surtout été contacté par des attachés de presse pour aller voir des films. Et si jamais le film me plaisait, j'en parlais. Et puis, si le film me plaisait pas, je laissais tomber parce que c'est du boulot. J'ai pas trop envie d'en parler ou quoi que ce soit.
Donc, t'étais pas dans la négociation avec eux, quoi. Tu négociais pas un truc.
Non, voilà, parlais pas d'argent. Et puis, même si jamais le film me plaisait, mais pas plus que ça, parce que je faisais pas forcément une vidéo dessus, donc voilà. Et puis après, ça dépend d'elle. Je continue à avoir des demandes pour d'une agence de presse, et puis il y a d'autres agences de presse qui ont laissé tomber parce qu'ils ont vu que j'allais voir les films et puis c'était marre, quoi.
Mais jamais dans le jeu vidéo.
J'ai des développeurs indés qui veulent juste que je teste leur jeu, pas forcément que j'en parle ou quoi que ce soit, juste que je l'essaye. Voilà, c'est tout. Mais non, sinon, des trucs rémunérés, si, mais dans le jeu, j'en ai 2-3, mais je pense que c'était des arnaques que tout le monde recevait au même moment. C'était une appli du moment, enfin une appli d'un jeu, je sais pas quoi, sorte de Clash of Clans, mais c'est pas Clash of Clans. Mais je pense que ça, c'est des faux trucs, ou en tout cas, ça m'inspirait pas du tout confiance. Souvent, non, enfin je le fais pas non plus. Si jamais on me le demande, enfin j'ai pas trop envie de le faire parce que c'est du boulot en plus qui me plaît pas plus que ça, parce que je vais être forcé de faire quelque chose, et voilà, ça me tente pas, quoi. Donc si c'est voilà, j'ai juste eu allez voir, va voir mon film ou regarde mon jeu, et si ça te plaît, en parle-en, sinon voilà, mais c'est tout, pas plus que ça.
Et la même question pour Lola, cette fois-ci vraiment jeu vidéo.
Moi j'ai déjà reçu des messages du genre si tu veux je te file une clé et tu comme ça t'as le jeu gratuit et tu peux parler de notre jeu. Alors j'avais pas l'impression que c'était des triple A, ça avait l'air d'être aussi indépendant. Moi je suis toujours mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que je pars du principe que si quelqu'un m'a offert une clé, je me sentirais mal d'en dire du mal. Du coup, ça voudrait dire que j'en dirais forcément du bien. Et du coup, enfin, je suis déjà biaisée dès le début et j'aime pas trop, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. En fait, j'aime pas faire du contenu où la pub est mélangée au contenu. J'aimerais bien faire un truc séparé. Limite, si c'est quelqu'un qui me dit hey, on a une marque de ketchup, est-ce que tu peux juste mettre notre logo au début? Tu sais, un peu comme les vieilles émissions de télé, du genre cette émission
ouais,
est sponsorisée
des placements
par
produits, ouais,
carte noire.
Ouais,
tu vois, genre. Voilà. Ouais, d'accord. Mais une fois que c'est dit, tu fais tout ton truc et ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme un logo sur un t-shirt ou voilà, je sais pas, mais ça, limite, ça me dérange moins parce que c'est honnête. C'est vraiment hey, j'ai mis une pub. Et ça n'a plus rien à voir avec le reste, et mon discours est décorrélé. Puisque je ne suis pas là pour faire la promotion, et c'est ça que je trouve un peu vicieux, avec le côté, on ne sait plus si c'est du sponsor, du partenariat, de la publicité. En fait, c'est un tout nouveau champ lexical.
Vous êtes bien placé pour le savoir, mais on peut se le dire, il y en a quand même beaucoup dans le YouTube jeux vidéo, français mais américain, je mets dans toutes les nationalités, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vidéos aujourd'hui qui font ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, vu que les internautes ont adblock, et que la publicité n'est pas très rémunératrice, a fortiori qu'on ne fait pas des audiences de tarés, aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéastes qui sont obligés, entre guillemets, de négocier de la visibilité contre un chèque, quoi.
Ouais. Et moi, je comprends. Hein. Et c'est pour ça que je jetterai jamais la pierre à des gens qui utilisent de la publicité ou qui choisissent certains moyens de monétisation parce qu'il faut bien manger. C'est du boulot. Et même si moi, effectivement, YouTube, c'est pas ma finalité. Je sais que pour certaines personnes, ça leur tient à cœur. Mais moi, ce qui m'embête, c'est vraiment le côté diffus et vraiment pas clair qu'on a en ce moment. Parfois, il y a des contenus sponsors. Je me rends compte à la moitié de la vidéo qu'en fait, c'était sponsor. Et ça veut dire quoi, sponsor? Parce que normalement, un sponsor, enfin, c'est pas un partenariat, c'est pas la même chose. Donc, il y a vraiment, je trouve, un champ lexical qui s'est mis en place pour éviter de dire pub, parce que pub, tu sais, ça fait ah,
ouais, c'est pas bien. Je suis 100% pub. D'accord.
Donc ça, j'aime pas. Mais voilà, moi, sinon, ça m'est pas arrivé beaucoup. Si une fois, il y avait des gens pour un service de VPN qui m'ont demandé, je me suis dit, alors voyons voir, est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment. Bon, bah, ok, je vais dire non à l'argent. Parce que j'ai toujours ma petite voix dans ma tête qui dit non, c'est pas bien.
Enfin, moi, fait un bon titre d'épisode, ça, je veux dire non à l'argent.
Ouais, non à l'argent, wouh. Non, mais c'est juste que j'ai pas envie que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. J'ai envie que si je dois vraiment placer une pub ou un logo de truc, ça soit au moins quelque chose qui m'intéresse un minimum. Voilà. Ça reste très rare, ça m'est arrivé. Je pense que si la chaîne continue de grossir, ça continuera à arriver. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas tant le contenu que tu fais, mais le nombre d'abonnés qui fait qu'on va te contacter. Donc voilà. Après, je verrai. Hein, peut-être que dans 5 ans, quand j'aurai 1 million d'abonnés, je serai moins intègre. mais pour l'instant, je dis non à l'argent.
Donc si on te voit nous parler de VPN, on va se méfier, c'est ça en gros.
Exactement. Il faut voilà, jeter des cailloux.
De ketchup et de VPN, d'accord.
C'est ça.
C'est bien noté. Merci à tous les deux. Merci Lola d'être passée dans Presse Occulte. On te retrouve donc sur ta chaîne YouTube Développeuse du Dimanche. Un autre lien peut-être, une autre référence que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui?
Eh bien écoutez, il suffit de taper Développeuse du Dimanche. Normalement, vous trouvez mon Facebook, mon Twitter, ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch et mon Tipeee, si vous voulez quand même me donner un peu de sous.
Il a également un YouTube, un Tipeee, mais pas un Twitch. C'est notre ami Mea qui est également sur Gamekult Premium. Ça tombe bien, vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, on vous en veut pas. Par contre, allez vous abonner, allez écouter les autres épisodes de Presse Occulte et également les épisodes de 24 FPS avec Mea. Merci d'être passé là.
Merci à vous.
Bah ouais, merci à vous.
C'était un plaisir de te recevoir. Merci également à mon saint patron Yukishiro pour ta vaillante co-animation malgré la fatigue.
Oui, mais toujours aussi sain. Tu vois, c'est la fatigue quand même. Je ne perds pas ma sainteté.
La sainte fatigue et la sainte colère. Cet épisode a été produit et préparé par Inks, de mon vrai nom. Yann Rieder, les chroniques sont préparées par nos amis d'Un Drop dans la Mare et par Thomas Bido d'Eco Partners. Le montage, mixage et la charmante identité sonore remaniée sont d'Arnaud Condé. Merci encore à nos invités Lola et Damien et à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Presse Occulte, une émission Game Cult Premium financée par ceux qui l'écoutent. À bientôt, ciao!